winds 100 points out to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Oh my God, comme le dit le thème, on est de retour en direct pour la saison 2022-2023 de Radio X-Files. Bienvenue sur les ondes de choix 98h Radio X. Nouvelle formule, formule quotidienne, dont je laisse la chance au principal intéressé, le maître d'orchestre de cette émission, de présenter Christian Page. Bon retour sur nos ondes.
Bonsoir Camille, bonsoir à tout le monde ici qui nous écoute. Effectivement, on a une nouvelle mouture pour cette saison des Radio X-Files. Comme tu le mentionnes, ce sera une émission quotidienne, les lundis. Puis en fait, j'ai même décidé de thématiser les émissions parce que avant, avec les Radio X-Files, qui étaient une fois semaine, on mélangeait un peu de tout pour essayer de plaire à tout le monde. Alors là, on pourra le faire avec des émissions thématisées. Les lundis, l'émission sera essentiellement consacrée au phénomène des ovnis extraterrestres et autres créatures mystérieuses ou autres visiteurs inconnus. Oh. Donc ça, ce sera notre émission du lundi. L'émission du mardi, on parle ici bien sûr d'émissions d'une heure. Donc les lundis, extraterrestres, ovnis, tout le reste, créatures bizarres. Le mardi, l'émission sera consacrée au phénomène de hantise, les fantômes et la perception extrasensorielle, la parapsychologie. Donc ce sera notre émission du mardi. L'émission du mercredi sera consacrée aux énigmes historiques et théories du complot. Donc, on va aller à peu près dans tous les sens. Et enfin, l'émission du jeudi sera une émission, et là, on va se faire plaisir à toi et à moi, Camille. Ce sera une émission qui sera consacrée aux crimes occultes, l'occultisme, les crimes étranges, bizarres, non résolus. Donc ça, ce sera notre émission du jeudi. Et l'émission du vendredi sera une espèce de best-of de la semaine, là, on va essayer de regrouper les meilleurs moments. Donc ça, ce sera un peu la thématique pour la prochaine saison, un peu de la façon dont notre canevas, de quelle façon l'émission va se dérouler. De temps en temps, on va essayer d'avoir des invités. Déjà, j'ai prévu quelques entrevues avec des gens là, cette semaine. J'ai un peu regardé ça autour de moi. Donc, on va pouvoir introduire ça à quelques moments dans les émissions. Donc, j'ai l'impression que ça va être très différent cette année et ça va aller très, très vite parce que une heure par soirée, c'est vite passé. Et surtout, si on thématise les sujets comme ça, ben on peut rapidement... on est déjà dans le bain, donc on peut continuer sur notre lancée.
Et en avoir pour tous les goûts, exactement, ça, oui. pour les auditeurs. Et sans plus tarder, on va commencer. En fait, il y aura deux parties aux émissions désormais. Et la première sera consacrée à tout ce qui est, en fait, actualité de la semaine, actualité dans l'univers de la thématique du soir. Sans plus tarder, tu m'as fait parvenir la première nouvelle, 1 million d'euros pour une preuve de la réalité exotique des ovnis.
Ah, ça fait réfléchir, hein?
Ben, 1 million, on est achetable, Christian.
Oui, moi, pour moins que ça, je suis prêt à me convertir.
OK!
Mais effectivement, c'est 1 million d'euros. On parle ici $1,300,000 canadiens à peu près. Et c'est un Belge, Monsieur Marc Brou, qui est originaire de Zolder. Ça se trouve à peu près à une heure de route à l'est de Bruxelles. Et Monsieur Brou s'est longtemps défini pendant en fait des décennies. Il a œuvré à titre d'ufologue. Il se définissait lui-même comme ufologue. Il a notamment été impliqué dans l'investigation, si je puis dire, de l'un des événements belges les plus marquants de l'histoire des ovnis, hein. C'est l'histoire de la vague belge qui s'est produite entre 1989, grosso modo, là, entre 1989, novembre 89, et jusqu'au mois de janvier 1991, à peu près. Donc, à ce moment-là, la Belgique a été le théâtre d'une multiplication d'observations d'ovnis qui se caractérisait, selon la presse, hein, qui se caractérisait par la présence d'un grand objet triangulaire et silencieux qui aurait été vu un peu partout au-dessus de la Belgique. Quand je dis un peu partout, il faut quand même préciser que les observations semblent être concentrées dans la partie française de la Belgique. On sait que la Belgique est un pays divisé en deux. Donc, on a la partie française et la Wallonie, hein, la partie flamande de la Belgique. Et curieusement, les observations de ce grand triangle volant étaient surtout observées au-dessus, étaient surtout rapportées au-dessus de la partie française. Donc, M. Brou a fait partie des organisations ufologiques de l'époque qui se sont penchés sur ces observations très marquées en Belgique à la fin des années 80, début des années 90. Et un peu avec le temps, il est devenu désabusé. Il n'est pas le seul là-dedans. J'en connais plusieurs ufologues qui, avec les années ou les décennies, ont été un peu désabusés. Et aujourd'hui, il arrive à la conclusion que toutes les observations d'OVNI sont toujours des erreurs d'interprétation, des phénomènes atmosphériques ou encore des phénomènes météorologiques qui ont mal été interprétés par les témoins. Il n'y a pas de phénomène exotique derrière les ovnis.
Il pète des bulles, lui, là.
Oui, voilà. Donc, les ovnis, pour lui, sont un phénomène essentiellement d'erreurs d'interprétation et il n'y a rien d'extraterrestre là-dedans. Et bien sûr, il joint le geste à la parole. Il dit, si des gens affirment avoir des preuves d'une réalité exotique du phénomène OVNI, il ne nie pas le phénomène OVNI. Les gens voient et rapportent des choses qu'ils n'arrivent pas à identifier. C'est pas ça qu'il remet en question. Et il ne remet pas non plus en question l'honnêteté des témoins. Les témoins sont de bonne foi. Ils communiquent ce qu'ils ont observé ou ce qu'ils croient avoir observé et ils le font en toute bonne foi. Ce que lui dit, c'est que l'interprétation que l'on fait de ces phénomènes en leur attribuant une nature exotique, autre dimension, visiteur de l'espace et tout ça, lui envoie ça en fait, il balaie ça du revers de la main et il dit si des gens affirment avoir des preuves qui démontreraient de manière in extenso la réalité exotique du phénomène OVNI, ben alors il est prêt à leur offrir ce 1 million d'euros qu'il a mis dans une fiducie, ce qui représente, comme je l'ai mentionné, à peu près 1 300 000 $ canadiens. Et l'offre est valide jusqu'au 21 avril 2025. Donc, inutile de vous bousculer. Si vous avez un petit morceau d'OVNI chez vous, ben évidemment, on peut... Lui affirme, M. Brou, que tout objet ou toute preuve matérielle qui lui sera présentée, qui peut démontrer la nature exotique des ovnis, il est prêt à la soumettre à toutes les analyses nécessaires et avoir un verdict scientifique qui va déterminer ou non la réalité, la véritable nature de l'objet présenté. Et c'est assez amusant parce que c'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'exercice-là. Moi, quand j'ai vu passer la nouvelle de cette offre de M. Brou, je me suis rappelé que, à plusieurs reprises, il y a des associations qui ont offert des sommes d'argent. On pense notamment, ici au Québec, l'Association des sceptiques du Québec, qui offrait des sommes d'argent en disant, s'il y a des gens qui peuvent démontrer la réalité d'un phénomène paranormal. Bon, j'entrerai pas dans le détail, mais c'est un peu loufoque la façon dont ils faisaient ça, puis ça n'avait pas une grande valeur scientifique. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on ne s'est pas pressé au portillon pour démontrer, parce qu'il y a plein de gens qui ont toutes sortes d'affirmations. Je suis voyant, je suis capable de faire ci, moi je fais des sorties, des voyages astro. Les gens ont des prétentions. Mais quand il suffit de démontrer de manière ou de valider ces prétentions, alors là on voit que les gens sont beaucoup moins nombreux. Et c'était vrai aussi il y a quelques années, je me rappelle, des gens qui affirmaient avoir des preuves de l'existence du Bigfoot, le Sasquatch. Oui. Alors, ces gens-là disaient, oui, on est allé en forêt, on a trouvé des poils, on a trouvé des excréments, on a ces objets-là. Et souvent c'est de faire une espèce de procès à la science. Hein. C'est-à-dire, j'ai ces objets-là, mais ils dorment chez moi, la science ne s'y intéresse pas, la science est aveugle, la science est sourde à nos revendications.
Alors que moi, je suis porteur de la vérité. Là. Écoutez-moi.
Oui, c'est ça, moi je l'ai. Oui, c'est ça, moi j'ai mon bout de poil de Bigfoot qui prouve que c'est vrai. Là. Et il y a quelques années, de mémoire, je crois que c'est en 2016 ou 2017, il y a un scientifique de l'Université Oxford en Angleterre qui s'est proposé en disant, écoutez, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Lui, il dirigeait le laboratoire de recherche ADN de l'Université d'Oxford. Il a dit, écoutez, si c'est vrai que des gens ont des preuves de l'existence d'un hominidé inconnu, hein, aux États-Unis ou en Amérique du Nord, on l'appelle le Bigfoot ou le Sasquatch, au Tibet, on l'appelle le Yeti, en Russie, on l'appelle l'Almasti. En fait, la plupart des grandes régions du monde ont des légendes qui font référence à des créatures simiesques qui vivraient dans les forêts. Donc, il dit, lui, ce que disait le scientifique, c'était, il s'appelait Brian Sykes, ce que disait le professeur Sykes, c'est de dire, ben, si vous avez ces preuves-là, ça m'intéresse de les analyser et de démontrer leur validité ou leur non-validité à travers des analyses ADN. Et il a reçu un certain nombre, il a reçu une cinquantaine d'échantillons. De tous ces échantillons, il y en avait à peu près la moitié qui ont été rejetés parce qu'ils étaient, s'ils séchaient ou bien de fibres synthétiques qu'on pouvait identifier uniquement les voyants, ou bien on pouvait identifier ce que c'était, même si c'était des excréments ou quoi que ce soit, on pouvait déterminer ce que c'était avant même de procéder à une analyse ADN. Et puis éventuellement, des échantillons qui étaient valables, on avait à peu près une trentaine d'échantillons de valables, on les a soumis à ces fameux tests ADN, et crois-le ou non, aucun d'entre eux ne s'est révélé provenant d'un hominidé inconnu. Tous les poils, les excréments qu'on avait envoyés, et que pourtant les gens juraient en disant... c'est étonnant parce qu'on avait des récits visuels. Hein? Quelqu'un disait, j'ai vu un Bigfoot passer par-dessus une clôture et il a laissé des poils dans la clôture. Je l'ai vu de mes yeux et j'ai récupéré les poils. Mais malheureusement, les poils se sont révélés après analyse ADN. Des poils des poils de yak, des poils de chevaux, des poils d'ours, de n'importe quoi, okay. Mais il n'y avait pas d'hominidé inconnu. Et ça a un peu clos la discussion. Puis même si Brian Sykes racontait, il a écrit un ouvrage, il dit c'était étonnant parce que j'allais voir, je suis allé porter les résultats moi-même dans certains cas, et quand je suis arrivé devant M. X ou Y qui disait avoir récupéré lui-même les poils du Bigfoot, et je lui ai dit, ben voilà, l'analyse ADN montre sans l'ombre d'un doute que les poils en question sont des poils de chevaux. Ben le type s'en tenait à sa version. C'était, ça doit être l'ADN qui est pas bon, votre laboratoire est pas bon, je vous dis que j'ai vu un Bigfoot passer. Et ça, c'est un peu, et on a un peu de la difficulté un peu à comprendre comment des gens, même placés devant le fait qu'ils ont menti ou qu'ils ont mal interprété ce qu'ils ont vu, continuent de maintenir un peu la fable qu'ils racontent un peu à tout un chacun. Bref, ici, on est exactement dans la même circonstance. On a ce Marc Brou qui propose 1 300 000 $ canadiens à quiconque aura une preuve démontrant l'existence exotique des ovnis. C'est assez étonnant parce que j'ai bien hâte de voir comment on va réagir aux États-Unis parce que je sais que plusieurs individus aux États-Unis qui affirment détenir des objets ayant une origine extraterrestre. Donc, qui cracherait sur 1 300 000 $.
Est-ce qu'il y a des limites de participation ou c'est juste
non,
une
y a
fois?
Pas de limite. C'est ça, il n'y a pas de limite de participation. Et M. Brou ne dit pas qu'il va garder l'objet après. Là.
Ah,
donc,
okay.
Si toi, tu dis, moi, j'ai un morceau d'OVNI, tu l'amènes à M. Brou, tu encaisses le 1 300 000, ben, tu as encore l'objet avec toi. Là. Il y a aucune... Lui, il ne garde pas l'objet, il ne l'achète pas. Il fait qu'il l'analyse. Donc, j'ai hâte de voir comment vont réagir les gens aux États-Unis qui font souvent la manchette. En tout cas, on les retrouve souvent dans la sphère ufologique. Des gens qui exhibent des objets, des débris qu'ils disent provenir de l'engin de Roswell ou d'ailleurs, ou à être des matériaux de composition tout à fait exotiques. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir à cette offre et j'ai hâte de voir quels vont être s'ils ne soumettent pas leurs objets à l'analyse, ben j'ai hâte de voir quelle va être la motivation pour ne pas le faire. Enfin, on verra. Mais c'est une nouvelle qui était, je trouvais, un peu amusante.
Ben oui, les paris sont ouverts. Et là, Christian, sur ta feuille, il y a une conspiration. Les mouettes seraient des espions à la solde des extraterrestres. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai lu ça, mais je ne vais pas m'empêcher de rire.
On va essayer, je vais essayer dans nos émissions comme ça, d'essayer de se trouver une, ce que moi j'appelle une pépite. Hein? Une histoire que tu dis, écoute, là, c'est comme... pouce, mais pouce égal.
Ah oui, en tout cas, les mouettes sont facilement distrayables.
Écoute, c'est une nouvelle qui est d'abord apparue, c'est la pépite de la semaine, de l'émission Ces ovnis. C'est une nouvelle qui a d'abord été publiée dans le journal, le tabloïd britannique The Mirror,
okay.
Qui a été reprise par le Toronto Star, mais avec un brin d'humour par le Toronto Star. Et la nouvelle est la suivante, c'est-à-dire que le Mirror nous raconte une entrevue qu'ils ont fait avec un certain Nick Pope. Et on nous décrit Nick Pope comme un ancien conseiller du département de la défense britannique pour la question des ovnis. Ça me fait toujours rire de voir de quelle façon on décrit Nick Pope, parce que c'est un personnage là qui est omniprésent dans la sphère sur les ovnis, alors qu'en réalité, bon, Nick Pope, j'ai l'impression qu'il pèse fort sur son crayon quand il remet son CV, parce que en réalité, Nick Pope n'a jamais été conseiller du département de la défense britannique pour la question des ovnis. Entre 1991 et 1994, Pope était un assistant au bureau de coordination de l'armée de l'air. C'était une officine qui avait aucun mandat pour étudier les ovnis. Si les gens, les Britanniques, voyaient un ovni et appelaient le département de la défense pour le signaler, l'information, l'appel était directement transféré à ce bureau-là. Et Nick Pope, c'est le gars qui répondait au téléphone. C'est tout, là.
Donc, il était autodidacte, hein, dans
ouais,
ses
c'est
tâches.
Ça. Donc, il répondait au téléphone. Et si vraiment les gens rapportaient une information qui était valable, ils transmettaient cette information-là à un bureau de l'armée de l'air britannique qui, éventuellement, pouvait faire une enquête. Mais lui, Nick Pope, c'était simplement le gars du téléphone, là, tu sais, veux dire. Ouais. Quand on nous le décrit comme le conseiller du département de la défense britannique, moi, j'ai l'impression qu'on exagère un peu. Quoi qu'il en soit, Nick Pope s'est fait une véritable carrière dans le milieu des ovnis. On le voit très souvent. Il est à peu près de toutes les émissions que l'on voit sur les ovnis. Et évidemment, il utilise toujours ce titre ronflant, ancien employé du département de la défense britannique pour la question des ovnis. C'est sûr que ça fait mieux que de dire le gars qui répond au téléphone. Quoi qu'il en soit, Nick Pope y est allé d'une déclaration qui peut faire sourciller. En tout cas, ça me fait sourciller. Et l'information est la suivante. Pope, il dit, vous savez, dans nos villes, on a beaucoup de pigeons et de mouettes. Et là, il suppose, en tout cas, il propose l'idée, il dit, ici, les mouettes et les pigeons étaient en fait des espèces de drones utilisés par les extraterrestres pour nous observer. Donc, ils sont partout dans nos villes, ils nous voient au quotidien et si leurs yeux étaient des caméras, il pourrait donc transmettre de l'information aux extraterrestres qui nous espionnent. Là, tu dis, là, c'est comme tu pousses un peu fort sur le bouchon, là, avec une histoire comme celle-là. Et ça me fait sourire parce que c'est pas la première fois que j'entends des histoires un peu dans les mêmes eaux. J'ai parlé avec des gens qui me montraient des photos d'ovnis. Je me rappelle, entre autres, notamment, on est dans les années 1980, j'avais rencontré une femme qui s'appelait Betsy Hill, qui a beaucoup marqué l'histoire des ovnis parce qu'elle prétendait que elle et son mari avaient été enlevés par des extraterrestres en 1961. Son histoire est devenue célèbre. L'adaptation de son récit à elle et de son mari ont fait l'objet d'un téléfilm à la télévision américaine au milieu des années 1970. Donc, elle était devenue un peu une espèce de légende dans le domaine des ovnis, Betsy Hill. Et là, dans les années 80, je me retrouve à un moment donné chez elle, on discute de la question des ovnis, elle me raconte son histoire, et là, elle me dit, vous savez, je connais un endroit dans le New Hampshire où on peut voir des ovnis. J'y vais souvent, j'ai pris plein de photos et là, elle me sort un paquet de photos. Et sur certaines de ces photos, ben, c'était clairement la lune qu'on voyait. Là. Mm-hmm. La lune ou des avions. Là.
Tu me confirmes que c'était pas un salami?
Non, c'était pas un salami.
Non, mais on sait plus, là.
Ouais. Et là, je lui fais la remarque, je dis, oui, mais Madame Hill, cette photo-là ici, là, on voit bien que c'est finalement, ce n'est que la lune ou ce n'est qu'un avion. Et là, elle me dit, oui, ça a l'air de ça. Mais les ovnis ont le pouvoir de se transformer. Ils peuvent nous donner l'impression qu'ils sont ou des avions, ou la lune, ou comme le dit Nick Pope, des pigeons ou des mouettes. Pourquoi pas? Mais là, quand on est rendu à ce niveau-là, n'importe quoi peut devenir un ovni ou des extraterrestres. T'sais. Des fois, dans le milieu des ovnis, c'était comme entre les gens qui adhèrent à l'idée qu'il y a peut-être quelque chose d'exotique ou d'intéressant derrière le phénomène des ovnis, et adhérer à des inepties semblables, ben, je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Bon, j'ose espérer que tous les amateurs d'ovnis ne sont pas prêts à croire que les pigeons et les mouettes sont des espions à la solde des extraterrestres.
En tout cas, les mouettes aiment bien après ça aller se nourrir au McDo. Je pense pas que ce soit les meilleurs espions extraterrestres, si c'est le cas.
Peut-être qui sait peut-être que le McDonald's est cache des bases souterraines
d'extraterrestres. Non. On en reparlera mercredi si c'est le cas, Christian.
Ouais.
On a, avant de faire notre première pause, un segment qu'on va appeler le divertissement. En fait, c'est des suggestions que tu veux faire à nos auditeurs. Moi, tout documentaire Netflix est le bienvenu dans ma bibliothèque. Je t'écoute là-dessus.
Oui, écoute. Bon, il y a deux sujets que j'ai retenus dans l'univers du divertissement. Donc, dans la catégorie livre, il y a un livre qui est sorti tout récemment. Malheureusement, il est en anglais. Ça s'appelle Canada's UFO Declassified. Hein, les ovnis du Canada déclassifiés. Hein, si je le traduis en français, c'est par l'auteur Chris Rutkowski. Rutkowski, c'est un bonhomme que je connais depuis de très nombreuses années. Il se définit un peu comme un ufologue, mais ce n'est pas l'ufologue qu'on peut imaginer là, avec la tuque en papier d'aluminium qui court après des petits hommes verts. C'est un type qui fait un travail excessivement rigoureux, très sérieux. Il reste très mitigé sur l'origine des ovnis. C'est un type qui est vraiment un touche-à-tout de l'histoire des ovnis. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. C'est vraiment le grand spécialiste canadien de la question des ovnis. Et là, il vient de publier cet ouvrage il y a quelques semaines, là, Les ovnis canadiens déclassifiés. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé, il est allé aux archives nationales à Ottawa, il a fouillé à travers tout l'ensemble des dossiers parce que, bon, le Canada collige de l'information sur les ovnis depuis la fin des années 40 et jusqu'à aujourd'hui, on continue de colliger de l'information, quoique ces dernières années, à cause des coupures budgétaires, parce que jusqu'au milieu des années 1990, la Gendarmerie royale du Canada colligeait de l'information sur les ovnis, l'envoyait aux archives nationales. Aujourd'hui, de moins en moins d'organismes fédéraux colligent l'information sur les ovnis. Donc, mais à moins que ce soit un pilote qui va signaler une tour de contrôle, qu'il a failli percuter un objet volant et qui va déclencher une enquête, objet volant qui pourrait être bien sûr un drone, un ballon, peu importe, un autre aéronef. Mais bon, à moins d'un incident comme cela, peu d'organismes fédéraux colligent l'information sur les ovnis pour les envoyer aux archives nationales. Okay. Rutkowski s'est tapé un peu ce travail-là. Il a fouillé dans les archives nationales des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Et il a sorti à peu près les meilleurs rapports d'OVNI qui ont été signalés. Et il nous en fait un peu une nomenclature à travers cet ouvrage-là. Si l'histoire des OVNI au Canada vous intéresse et que vous comprenez l'anglais, là, la langue de Shakespeare ne vous est pas étrangère, alors je vous conseille Les OVNI canadiens déclassifiés, Canada's UFO Declassified. C'est absolument à avoir dans sa bibliothèque si on s'intéresse à l'histoire des OVNI au Canada. Maintenant, question documentaire. J'ai vu c'est une série qui est disponible sur Netflix. Le titre en français, c'est « OVNI classé ultra top secret ». C'est une traduction française, bien sûr. C'est un document, une série en 6 épisodes qui est une série américaine. Écoute, j'essayais de trouver quelque chose de bien à dire à propos de cette série-là.
Ah ouais?
Si ce n'est de dire, bah, les images sont belles. En fait, c'est une série, là, vraiment, là, faut être embrigadé dans la question des ovnis, être hyper paranoïaque pour avaler un peu ce qu'on nous raconte. En fait, chaque épisode, c'est de nous dire le gouvernement cache des affaires, on nous raconte plein de trucs, évidemment sans jamais apporter la moindre preuve de ce qui est avancé. On fait une interprétation, on nous cite des histoires en les déformant, on cite des déclarations officielles, encore une fois, en les déformant, et à fond. Et le documentaire, presque toutes les minutes à peu près, ben, quelqu'un, un invité ou un narrateur nous dit « on a des témoignages, on a des preuves », comme si le témoignage était des preuves, et à force de nous le répéter, ben, on nous dit « on va tellement nous le rentrer dans le crâne qu'à la fin des 6 épisodes, ben, on va en venir à accepter que des témoignages, c'est des preuves ». Mais des témoignages, c'est pas des preuves. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, les gens peuvent raconter ce qu'ils croient être la réalité, ils peuvent le faire en toute bonne foi, mais un témoignage n'est pas une preuve. Et même si on nous le répète toutes les 30 secondes, ça deviendra jamais un témoignage ne deviendra jamais une preuve. Et bien sûr, à travers toutes ces éléments-là, bon, on a toutes sortes d'experts qui apparaissent avec des titres plus ronflants les uns que les autres, hein, comme notre Nick Pope, conseiller du département de la défense britannique, qui en fait n'était qu'un gars qui répondait au téléphone. Là, j'ai trouvé la pépite dans cette série-là. À plusieurs reprises, on voit un type qui s'appelle Emery Smith, et sous lui, on voit apparaître le titre Air Force Institute of Technology, USAF, hein, pour United States Air Force, Scientist and Medical Researcher. Et là, le type nous dit toutes sortes d'affaires. Il a travaillé sur des projets top secrets de l'armée. Son travail consistait à récupérer des matières biologiques d'extraterrestres pour les analyser. Il a assisté à plein d'autopsies d'extraterrestres. Écoute, le gars nous raconte des histoires fantastiques. T'es quasiment accroché sur ton divan à écouter ça. Et puis finalement, j'ai dit, tiens, je vais faire une petite recherche pour découvrir en fait que ce monsieur Emery Smith n'a jamais été un scientifique en question. Il a simplement été enrôlé dans l'armée comme n'importe qui peut le faire aux États-Unis. Il ne fait partie d'aucun projet secret et sa formation académique s'arrête à un diplôme de secondaire, un diplôme collégial.
C'est spécial que Netflix ait laissé passer à travers le filet, hein, me semble.
Fait que c'est ça. Fait que là, tu te dis, bon, là, on a un gars qui a un diplôme de secondaire 5 qui est en train de nous faire croire qu'il a travaillé sur des super projets top secrets. Puis là, je sais, dans le milieu des ovnis, c'est un peu la mode, ça. Quand on commence à enquêter sur des gens puis on découvre qu'ils ont des CV un peu gonflé, ben la mode, c'est de dire, ah oui, mais c'est le gouvernement qui essaie d'effacer des preuves. Probablement que ce gars-là, il a étudié à Harvard, à Cambridge, à Yale, mais le gouvernement a fait disparaître ses diplômes. Puis là, ben, si on fait une enquête, on découvre que finalement, le gars, il a un diplôme de secondaire 5. Mais bon, peu importe, j'ai fait le travail avec cet individu-là. Je l'ai fait avec d'autres pour découvrir qu'effectivement, on avait des CV qui avaient été très gonflés, mais ça, c'était quand même la pépite. Le type n'a jamais été impliqué dans aucun projet du gouvernement, puis le gars a un diplôme de secondaire 5, puis à part d'avoir fait son service militaire de 2 ans, ça s'arrête là.
Okay.
Et pourtant, il se présente lui-même comme un scientifique de l'armée américaine et faisant de la recherche médicale. Bref, si vraiment vous voulez vous amuser ou pour le divertissement, ben peut-être OVNI classé ultra top secret, mais c'est une multiplication de propos là, tout à fait fantaisistes, invérifiables et qui nous plonge en fait le discours du début à la fin. C'est un discours de paranoïa absolue. Hein. C'est le méchant gouvernement qui cache tout, on sait tout, bon, etc., etc. Puis là, tu peux t'imaginer toutes les dérives que ça peut entraîner.
Effectivement, sur les réseaux sociaux ou sur le web. On peut se laisser avec la bande-annonce, si vous avez toujours de l'intérêt, mais ce ne sera pas le documentaire qui va passer à l'histoire l'émission.
Non, certainement pas. Non, absolument pas.
Parfait. Au retour, on fait une pause, Christian, puis au retour, on va se concentrer sur le sujet de la soirée.
De la soirée, oui.
They don't want to be known. What we can do is judge their actions.
Do they want to help us? Do they want to harvest us? The big question is intent. Who they are, why they're here, why they stick around with us.
The question is, what possible visitations has the U.S. government been keeping from the public?
So we're going to see more of those sorts of videos, I think. Secondly, I think we'll see more documents. And I think the other thing we will see, people who have been involved in this, they are going to come forward and speak out.
People in the world and governments start to get more information till eventually they acknowledge, yes, there's extraterrestrials here.
Was it possible? Did these beings come from another world or from a parallel universe?
We'll bring you the dramatic story of what happened over our nation's capital just 1 week ago tonight.
Nobody's ever really seen it or know where it's at, but it's out there.
But I think it's a noble pursuit to try to figure out why.
Could we be on the verge of another conflict?
We will have a broad awareness of who they are, what they're doing, why they're doing it.
Radio X Files.
Files.
Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
19h31 minutes. Vous écoutez la deuxième partie de la toute nouvelle formule de Radio X-Files. On a décidé de compartimenter, en fait, à thème à chaque soir, puisque nous serons là de façon quotidienne. La thématique du lundi, ce sont les ovnis. Et le sujet de la soirée, Christian, sera la nouvelle organisation du Pentagone.
Ouais, là, on est vraiment dans autre chose. On est dans le sérieux. Ça nous oblige pas à accepter qu'on est visité par des extraterrestres. Mais ici, on est vraiment vraiment dans d'autres, à un autre niveau. Hein. Et ça se passe au Congrès américain, une espèce de bras de fer qui se joue entre le Congrès et le département de la Défense. Donc, j'essaie de te résumer rapidement un peu qu'est-ce qui nous a amené là et qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est assez complexe. Beaucoup de politique là-dedans, beaucoup de sous. Hein. On parle du budget du département de la Défense. Hein, pour te le situer, là, le budget 2022 est de l'ordre de 750 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup de sous. Et il faut savoir que le budget de la Défense, il est fonction du feu vert du Congrès. Donc, c'est le Congrès qui dit « OK, on accepte ces dépenses » parce que le département de la Défense doit dire où va aller l'argent. Avec, bien sûr, il y a des budgets qui sont discrétionnaires, ce qu'on appelle les « black budgets ». Hein. Le gouvernement peut dire « On a besoin de 100 millions, mais on peut pas vous dire pourquoi. On se doute bien que c'est pour le développement de missiles, développement d'avions, de prototypes. Pis on peut pas le mentionner dans des documents du budget, dans des documents du Congrès. Mais au-delà de ça, il faut savoir que le département de la Défense fait une demande de dépenses. Ces demandes de dépenses sont acceptées par le Congrès. Le Congrès peut ajouter ou retirer des éléments, faire des recommandations. Et ensuite, avec la signature du président, dans le cas présent, le président Biden, le budget sera accepté pour l'année en cours. Donc, ce qui nous amène à notre discussion de ce soir, il faut quand même remonter à 2017 pour comprendre un peu cette situation-là. Donc, il y a 5 ans, il faut savoir que avant 2017, si les gens, et je sais que les gens qui suivent l'émission des Radio X-Files depuis un certain temps vont dire « Il, Christian, se répète », mais je le fais pour les gens qui seraient pas au courant de cette histoire-là.
Ben oui.
Ils comprendront pas la suite des événements si je ne remets pas la table. Donc, jusqu'en 2017, si tu adressais une demande citoyenne au département de la Défense pour la question des ovnis aux États-Unis, tu recevais une lettre circulaire qui te disait que le gouvernement américain s'est intéressé à la question des ovnis de 1947 à 1969. En fait, jusqu'en décembre 1969, avec une série de projets, dont le dernier en lice portait le nom de Projet Blue Book. Le Projet Blue Book, dont on a fait d'ailleurs une série, une excellente série de divertissement en s'inspirant de Blue Book au canal Historia, probablement sur la chaîne Historia, probablement que beaucoup de nos auditeurs de ce soir connaissent la série, qui était beaucoup de fiction sur un peu de vérité, mais néanmoins, c'était très divertissant. Donc, en décembre 1969, le département de la Défense a tiré la plug, si je puis dire, sur la question des ovnis. Et en janvier 1970, il a publié ses conclusions. Et les conclusions principales étaient, il y a à peu près 5 à 10 % des observations d'ovnis pour lesquelles on n'a pas d'explication. Donc, il y a une reconnaissance. Hein, quand les gens disent, l'armée nie l'existence des ovnis, c'est pas vrai, ça. C'est jamais arrivé, ça. Dans l'histoire du département de la Défense, jamais le gouvernement américain a dit les ovnis n'existent pas. Jamais. Même lorsqu'ils ont terminé le projet Blue Book, ils ont bien mentionné sur les 12 618 observations colligées, enquêtées par le département de la Défense, 701 sont demeurées non identifiées. Donc, on reconnaît qu'il y a un phénomène d'objets volants non identifiés. On parle pas d'extraterrestres, de petits hommes verts, on dit bien des phénomènes ovnis pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. Et on n'a pas trouvé d'explication pour une foule de raisons. Hein. Soit que l'information colligée était trop imprécise, soit qu'on était réellement devant quelque chose qui semblait exotique, bon, peu importe, mais on avait 701 cas non identifiés. La deuxième conclusion, ça c'est celle qui fait mal aux amateurs d'ovnis, le département de la Défense disait, bon, on a sur 12 618 observations enquêtées, 701 sont demeurées non identifiées, mais de ce nombre, aucune ne présente des caractéristiques ou des éléments qui nous porteraient à croire qu'on est en présence de visiteurs extraterrestres.
Et ça a se gratté la tête pas mal.
Ouais, là, donc tu dis, bon, ben ok, merci, bonsoir. Et ça, c'était, si tu adressais une demande citoyenne au département de la Défense, tu recevais une lettre qui était la Blue Book Fact Sheet, qu'on te racontait tout ça dedans, puis on disait, donc voilà, depuis fin 69, début 1970, le département de la Défense ne s'intéresse plus à la question des ovnis. Mais voilà qu'en 2017, le New York Times publie une série d'articles révélant que le département de la Défense nous a un peu menti parce que il a quand même continué de s'intéresser à la question des ovnis en sourdine. Mmh. Et voilà, il y a eu plusieurs petits projets, des projets quand même assez modestes. On s'entend bien, c'était pas des projets où il y avait des centaines de millions d'investis, mais quelques petits projets modestes où on s'est intéressé à la question des ovnis. Et en 2017, donc, le New York Times publie cette histoire-là. Donc, il révèle au grand jour l'existence de ces projets secrets pour étudier les ovnis. Et surtout, il révèle une série de vidéos, au moins 3 vidéos, tournées par des pilotes américains, principalement des pilotes de la US Navy, lors d'exercices militaires, et 2 exercices militaires en particulier, un en 2004 au large des côtes de la Californie, où des pilotes ont vu une espèce d'armada, d'escadrille d'objets mystérieux. On a envoyé un chasseur F-18 pour intercepter l'un de ces objets, et le pilote, le commandant Fravor, a raconté que cet objet-là, il avait vu de près, il avait pu s'approcher de l'objet à moins d'un kilomètre. Il avait pu voir que l'objet ressemblait, on l'a appelé l'ovni tic-tac, parce que Fravor dit cet objet, il se tenait au-dessus de l'eau, il ressemblait à une pastille, les bonbons, les tic-tac. Il dit, ça avait l'air de ça, c'était blanc, et ça s'est éloigné à une très, très grande vitesse. Lui, Fravor, n'a pas enregistré ce moment-là. Il y avait 2 chasseurs. L'un qui était piloté par une femme, le commandant Dietrich, et lui, Fravor, pilotait l'autre F-18. Et Dietrich, elle, dans un témoignage, on l'a questionné sur ça, elle dit « J'ai vu l'objet, mais ça s'est fait tellement vite que je l'ai vu du coin de l'œil, sans plus. » Fravor, lui, était en meilleure position, et là, il décrit l'objet, il dit « Bon, ça ressemblait à une pastille tic-tac, je voyais aucun système de propulsion, rien. Quand je l'ai vu, l'objet, il se tenait au-dessus de l'eau, et au-dessus de l'eau, là où il se tenait, sur l'eau, là où il se tenait, il y avait une espèce de tourbillon dans l'eau, comme s'il y avait un objet sous l'eau, ou si l'objet interférait avec la surface de la mer. » Il dit, au moment où mon appareil s'est approché, mon avion s'est approché de cet objet tic-tac, l'objet s'est éloigné à très, très grande vitesse, puis en un clin d'œil, l'objet est disparu à des vitesses certainement plus grandes que la vitesse du son, sans faire un bang supersonique, ce qui, dans le domaine de la physique, est à peu près impossible. Donc, c'est ce qu'il va raconter, c'est ce qui va être raconté également dans l'article du New York Times, et on va même nous présenter des vidéos, et parmi ces vidéos-là, donc, il y a des vidéos, pas par le commandant Fravor, mais un autre membre, parce que ses observations se sont multipliées pendant quelques jours. Fravor n'a été qu'un témoin parmi d'autres, et un des militaires qui participait aux exercices, lui aussi sur un F-18, a réussi à capter sur son radar de vol, son radar de bord de son appareil F-18, il a réussi à capter ce fameux objet tic-tac, et donc on voit, bon, c'est une image en noir et blanc, en fait c'est une image en infrarouge, donc on voit une espèce de point noir sur un fond plus ou moins grisâtre qui semble se déplacer devant l'avion. Pour un non-initié, c'est pas très impressionnant, faut l'avouer, là on voit cette vidéo-là, je dis, bof, on voit pas grand-chose, mais néanmoins, le New York Times publie ces images-là et il publie également d'autres images qui auraient été tournées par d'autres pilotes de la US Navy lors d'exercices militaires, mais cette fois du côté est des États-Unis, un peu au nord de la Floride, mais dans l'océan Atlantique. Et là aussi, des objets volants inconnus auraient été observés au-dessus de zones de manœuvre militaires. Et là aussi, des pilotes auraient réussi à filmer et à capter sur leurs écrans radar certains de ces objets. Donc, ce sont ces films noirs et blancs qui sont diffusés sur le site du New York Times, un peu concomitant avec la publication de cet article qui dit, voilà, il y a eu des budgets secrets, puis l'armée américaine s'est intéressée à la question des ovnis. Et à partir de là, c'est un véritable raz-de-marée. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire des ovnis, et encore moins au Pentagone. C'est comme si le Pentagone s'était fait prendre la main dans la jarre à biscuits, là. Puis il n'y avait pas le droit. Alors, et de toutes parts, il a été critiqué, mais qu'est-ce que c'est que ces images-là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de budget? Et là, donc, depuis 2017, le département de la Défense essaie de jongler avec cette histoire-là. là où ça devient plus concret. Et là, je sais, Camille, tu vas me dire, mais mon Dieu, il est donc bien long à arriver à son sujet. Mais il faut tout comprendre ça pour savoir que le Congrès, finalement, a décidé, parce que là, au début, le département de la Défense disait, oui, on va s'intéresser à ça. Oui, c'est vrai que nos pilotes ont vu des trucs un peu bizarres. Puis là, la US Navy annonce, on va mettre de l'avant un groupe qui va s'appeler le UAP, hein, UAP qui remplace le mot UFO, OVNI, parce que UFO, hein, ou OVNI, objet volant non identifié, a été très stigmatisé ces dernières années avec l'association qu'on fait avec des extraterrestres. Alors, le département de la Défense, la US Navy, ont décidé de changer l'acronyme. On ne parlera plus d'OVNI. On va parler maintenant de phénomènes aériens non identifiés, des PAN. Ça fait mieux que OVNI. Donc, le département de la Défense dit, oui, on va s'en occuper. La US Navy dit, on va créer un petit groupe là, pour enquêter là-dessus. On va appeler ça le UAP Task Force. Mais ça bouge pas trop. Tu sais, tu comprends, on essaie de donner le change aux médias qui, eux, évidemment, sont enthousiasmés par cette histoire-là. Ça vient d'où, ces images-là? Puis là, c'est crédible, ce sont des pilotes, nos pilotes qui défendent notre pays, notre territoire, à qui on fait confiance lorsqu'il y a des affrontements armés, là, qui nous racontent des choses tout à fait fantastiques, extraordinaires. Et finalement, tout ça a rebondi au Congrès. Et là, l'an dernier, le Congrès, et quand je dis l'an dernier, on parle de 2021, le département de la Défense, qui avait demandé, bien sûr, à ce que son budget soit accepté par le Congrès, là, a dû faire face à une première opposition. Le Congrès a dit « Oh, attention !» On entend parler, comme tout le monde, de ces histoires d'OVNI et on voit rien dans votre budget à propos d'enquêter sur ce sujet-là. Fait que là, le département de la Défense dit, ouais, c'est vrai qu'il faudrait faire quelque chose. Fait que finalement, l'été dernier, on est en juin 2021, le département de la Défense, pressé par le Congrès, va rendre public un rapport dans lequel ils avouent qu'ils ont à peu près 144 observations d'OVNI qui ont été colligées au cours des dernières années lors de manœuvres militaires. De ce nombre-là, 143 sont demeurés non identifiés. Mais on ajoute également que de ce nombre, si c'est vrai qu'une petite quantité de ces pannes, hein, parce qu'on ne parle plus d'OVNI, si un certain nombre de ces pannes semblent avoir démontré des manœuvres aéronautiques extraordinaires, ces manœuvres-là ne sont pas confirmées par ou des appareils ou des éléments de télémétrie. Il pourrait s'agir simplement d'erreurs de lecture ou d'erreurs d'observation par les pilotes. Donc, on est un peu dans le flou encore, mais il y a une première reconnaissance que le département de la Défense dit « Oui, c'est vrai, nos pilotes sur des terrains de manœuvres militaires ont vu des trucs un peu étranges et c'est vrai qu'il faudrait peut-être s'intéresser de manière plus soutenue à ces objets. » Et c'est là que le Congrès va décider de forcer le département de la Défense a créé une première unité pour enquêter sur les ovnis. Donc, le département de la Défense, un peu à rebrousse-poil quand même, il faut le dire, décide de créer cet automne une organisation qu'il a appelée avec un nom tout à fait là, très très sexy qui s'appelait Groupe de gestion et d'identification des aéronefs non identifiés. Ça, c'était le nom de l'organisation.
Okay.
Et avec ça, ils ont dit... Ils ont vu leur budget accepté parce que bon, c'est un conseil du Congrès. Le Congrès n'a pas c'est un peu comme si toi, tu roules sur l'autoroute. Tu prends une bretelle, par exemple, pour sortir de l'autoroute, puis tu vois une pancarte, puis c'est marqué 50 km/h.
Ouais, recommandé.
C'est recommandé, là. Ouais. On t'arrête, si tu roules à 30 km/h, on t'arrêtera pas. Puis si tu roules 10 km au-dessus, on t'arrêtera pas non plus. C'est recommandé. Mm-hmm. Donc, le Congrès, ce qu'il a dit au département de la Défense, c'est que on vous recommande fortement d'inclure dans le budget une section qui sera pour l'étude de ces phénomènes aériens non identifiés qui ont été rapportés par nos pilotes. On veut savoir ce que c'est. Puis en fait, c'est vrai que l'opinion du Congrès traduit un peu l'opinion du public. Toi, moi, en tout cas moi, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'intéresse de savoir ce que ces pilotes-là ont observé. Est-ce qu'ils ont simplement été trompés par leurs équipements? Peut-être que les appareils deviennent trop sophistiqués et les pilotes n'arrivent plus à faire des lectures. lecture correctement de la télémétrie qui leur est fournie.
Des bugs technologiques aussi, ça peut arriver.
Est-ce que le pilote, est-ce qu'à un moment donné, hein, les pilotes sont tellement confrontés à une quantité d'informations à travers leur casque, à travers ce qu'ils voient sur le tableau de bord, et comme ils se déplacent dans un espace à trois dimensions, en toi, quand tu te déplaces en voiture, ta voiture se déplace et l'environnement bouge autour de toi, mais tu circules, tu es en deux dimensions, tu comprends?
Ouais.
Tu es sur le sol. Quand tu te déplaces dans une troisième dimension, tu as des objets qui se déplacent d'avant en arrière, à droite, à gauche, mais d'en dessus vers le dessus. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle dans le langage des spécialistes une désorientation spatiale. Et est-ce que cette désorientation spatiale serait à l'origine d'un certain nombre de rapports sur les ovnis? Mais ça m'intéresse de savoir. Puis si on est visité par des extraterrestres, encore plus, tu comprends? Je veux dire, si on est réellement, il y a réellement des aéronefs d'origine inconnue, on veut le savoir. Les journalistes veulent le savoir, les médias veulent savoir, le public veut savoir et le Congrès veut savoir. Donc, on pose la question au département de la Défense, on dit, on veut ça. Le département de la Défense, donc, voit, et là, on est rendu en décembre 2021, le président Biden signe le nouveau budget du département de la Défense, 750 milliards. Le département de la Défense inclut dans ces dépenses-là un bureau pour enquêter sur les ovnis. Comme je te l'ai mentionné, le groupe de gestion et d'identification des aéronefs non identifiés. Mais là, voilà que en juillet dernier, donc il y a quelques semaines, deux semaines à peine, on est le 20 juillet dernier, ça n'a pas marché. Il y a des nouvelles auditions au Congrès, puis le Congrès dit non, ça, ça ne marche pas. On se plaint fortement du travail qui a été fait par l'armée. On a l'impression que le département de la Défense fait rien, qu'il essaie de noyer le poisson. Et là, donc, le 20 juillet, le Congrès a déposé une nouvelle demande qui sera inscrite pour le budget 2023 du département de la Défense. Et dans une section, la section 703, le Congrès ne mange pas ses mots pour dire à quel point il est déçu. Parce que, bon, le département de la Défense a eu beau créer sa petite unité spéciale pour enquêter ses ovnis, mais depuis, que se passe-t-il? Et là, on nous dit, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et là, j'ai pris quelques notes, notamment parce que, bon, j'ai lu le fameux communiqué. Le document parle d'une croissance exponentielle des phénomènes aériens non identifiés. Il parle également de phénomènes sous-marins non identifiés qui ont été rapportés. Et ça, le département de la Défense ne semble pas en tenir compte. On critique fortement la lenteur du département de la Défense à enquêter sur ces fameuses observations de phénomènes aériens non identifiés. Je te mentionne ici qu'on ne parle jamais d'extraterrestres. Je te laisse à toi, je laisse aux auditeurs interpréter ce que vous voulez. Le Congrès ne parle pas d'extraterrestres. Il parle de phénomènes aériens non identifiés. Est-ce que ce sont des drones qui viennent de la Chine? Est-ce que ce sont des drones qui viennent de la Russie ou de la Corée du Nord? Est-ce que c'est une technologie extraordinaire exploitée par une nation étrangère? On ne le sait pas. C'est non identifié. Mais on nous dit, voilà, il semble y avoir une augmentation de ces observations qui sont rapportées et on ne sait pas ce que c'est. Et donc, on demande, le Congrès est à la fois critique. On dit le département de la Défense, on a l'impression qu'il fait rien. Et le document demande explicitement au département de la Défense de porter une attention particulière au phénomène. Et là, ça, j'ai trouvé ça un peu curieux comme formulation. Il disait, on veut qu'il porte un intérêt particulier au phénomène inexpliqué et d'ignorer les phénomènes liés à des systèmes artificiels. Mais ben là, s'il est plus identifié, si tu l'as identifié comme étant un système artificiel. C'est un peu comme je te dis, je veux que t'enquêtes ces fantômes, mais uniquement si tu sais d'avance que ce sont des revenants. Donc, mais tu peux pas le savoir si t'as pas enquêté d'abord. Là, il y a comme, j'ai trouvé un peu étrange cette formulation, mais enfin, c'est vrai que dans bien des cas, quand on lit, on suit ce sujet-là, ce dossier-là de près, puis je suis certain qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui le suivent comme moi je le suis. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, le département de la Défense a utilisé l'expression, au lieu d'utiliser le PAN, hein, phénomène aérien non identifié, il a utilisé l'expression aéronef sans pilote non identifié.
OK.
Donc, et là, un aéronef sans pilote non identifié, ça, ça ressemble étrangement à un drone. Tu sais, si tu veux une autre façon de le dire, là, un véhicule sans pilote non identifié, là, ça, ça a l'air d'un drone, tu sais. Fait que le Congrès semble dire, si vous avez l'impression que c'est un drone, là, ça, ça ne nous intéresse pas.
Bien, c'est drôle que ça intéresse pas, parce qu'on dirait que moi, ça soulève un gros questionnement, oui, Christian, avec toute l'incertitude puis un peu la tension qu'il y a à l'international. On le voit avec la Chine, la Russie. Pourquoi on voudrait l'ignorer?
Tu as tout à fait raison. Moi aussi, j'ai trouvé ça un peu étrange. C'est comme, si c'est la Chine ou c'est les Russes, ça ne nous intéresse pas. Ben OK, mais je sais pas. Peut-être qu'il y a quand même une menace de ce côté-là. Mais oui. Bon, bref, on nous dit de s'intéresser aux choses artificielles. Le document définit trois types de phénomènes. Il dit, on veut que vous enquêtiez sur les phénomènes aériens non identifiés, les phénomènes sous-marins non identifiés et les phénomènes transmédia. Pourquoi transmédia? Parce qu'il y a des récits apparemment rapportés par des pilotes qui disent avoir vu ces objets dans le ciel, plonger dans la mer ou sortir de la mer. Or, on n'a pas cette technologie-là. On peut pas prendre un F-18 puis le faire plonger dans l'océan,
non, hein?
Puis le faire ressortir 3 kilomètres plus loin. Donc, on veut qu'on enquête là-dessus. Le document parle aussi d'une menace réelle des phénomènes aériens non identifiés, mais malheureusement, il donne pas d'exemple. J'aurais bien voulu voir est-ce qu'il y a des incidents précis où il y a une menace claire qui a été démontrée. On l'a pas. Et le document octroie une forme d'immunité à tous les gens qui on parle de militaires ou bien des militaires actuellement en service ou d'anciens militaires qui auraient pu être impliqués dans des histoires d'OVNI mais qui ont refusé d'en parler de peur de représailles, soit pour leur réputation, soit pour des raisons économiques. Hein, si je parle, est-ce que je vais perdre ma pension de militaire parce que j'étais dans telle ou telle unité, j'avais promis de ne rien dire. Donc, on lui offre une espèce d'immunité s'ils parlent. Je dois te dire que je sais pas, faut dire que le Congrès a mis le pied à terre, puis là, ça a été un coup de semonce, parce que le jour même, le département de la Défense a annoncé qu'il mettait fin à son programme appelé Groupe de gestion et d'identification des aéronefs non identifiés. Il a dit, c'est fini. On en crée un nouveau. Et ce nouveau bureau s'appelle le Bureau de résolution des anomalies tout domaine.
Ben voyons. OK.
Là, c'est presque une espèce... Moi, je regarde ça, puis là, je me dis, mais coudonc, c'est une espèce de maison de fou. Hey, je sais pas si tu te rappelles ce film d'animation, Les 12 travaux d'Astérix, où Astérix et Obélix rentrent dans la maison de fou. Puis on dit, oui, est-ce que vous avez le formulaire 23? Ah, le formulaire 23, c'est au guichet 22. Puis au guichet 22, oui, mais est-ce que vous avez le formulaire rose? Puis là, on n'arrête pas de les envoyer à toutes sortes de portes, mais finalement, ils n'arrivent jamais avec le document qui est nécessaire. Et là, j'ai un peu cette impression-là. Bref, le département de la Défense dit, c'est fini, on crée une nouvelle unité qui va être beaucoup plus corrosive, qui va s'intéresser davantage à cette question-là. On prend le taureau par les cornes. C'est un peu ça qui sous-entend. Mais on nous dit que le bureau sera quand même sous la responsabilité du sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité, ce qui est exactement la même chose de l'ancien bureau.
On a juste changé le nom. Hein?
On a changé son nom.
On a peut-être changé un peu la peinture aussi. Ouais,
on a repeint l'autobus. On a changé le nom qui est accroché dessus. Mais on a le même pilote puis les mêmes passagers. Mais bon, c'est un peu ça qu'on a fait. Et avec ça, ben, on nous dit ben, peut-être que là, on va arriver à une solution. C'est un peu étrange. Et vraiment, on se demande si éventuellement cette histoire-là va aboutir. Et moi, de mon côté, c'est sûr que je me questionne. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'agenda là-dedans? Puis quand je dis un agenda, on regarde, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, mais quand on fouille et on gratte la surface, on s'aperçoit que c'est toujours les 5 ou 6 mêmes individus qui réagissent fortement et qui derrière eux, entraînent les médias et peut-être un peu les membres du Congrès. Est-ce qu'on n'est pas en train de, à travers une poignée d'individus, est-ce que les médias et le Congrès ne sont pas manipulés? Et c'est peut-être pour ça que finalement, on n'arrive pas à trouver une solution. Puis le département de la Défense essaie de se battre là-dedans en n'ayant à peu près rien à se mettre sous la dent parce que, bon, jusqu'à maintenant, il faut bien l'avouer, même en mai dernier, il y avait eu une audition au Congrès. Puis le département de la Défense elle a dit, ben écoutez, on n'a pas grand-chose, on n'arrive pas à identifier les quelques cas qu'on a, il n'y a pas suffisamment d'informations pour qu'on puisse statuer de manière objective. Donc, tu te demandes un peu ce qui se passe là-dedans et est-ce que le Congrès n'est pas manipulé par les médias et si les médias médias ne sont pas manipulés par une petite clique d'amateurs d'OVNI qui essaient de mousser un sujet. Puis ça s'est déjà vu dans le passé, hein? Une clique d'individus qui réussissent à faire monter, à faire prendre la crème d'une telle façon que tout le monde s'énerve, puis que finalement, ben, on a crié au loup, mais il n'y avait pas de loup. Et là, je me demande un peu de quelle façon on va sortir de là. Et là, c'est bien sûr que le département de la Défense, lui, de son côté, a beau changer de nom, changer de groupe, mais tu sais, tu peux pas inventer des données que tu n'as pas.
Non.
Tu comprends le Congrès, parce que dans le rapport de l'été dernier, le département de la Défense dit on est 144. Ça n'a pas l'importance qu'on en ait 144, qu'on en ait 250 ou en ait 3000. Ce qu'il nous dit, c'est on a un certain nombre de cas où on a l'impression que les aéronefs, hein, ont fait preuve de manœuvres aéronautiques extraordinaires, mais ces cas-là sont pas suffisamment documentés pour qu'on puisse réellement statuer. Ben, que t'aies 15 cas comme ça ou que t'en aies 500, tu pourras pas plus statuer davantage. Tu sais, il nous manque des données. Fait que là, le département de la Défense, on le voit, il essaie de faire le beau, si je puis dire, devant le Congrès qui veut des résultats, mais des résultats à partir de données qu'on n'a peut-être pas vraiment.
Et les mains sont liées de ces gens-là, pour la simple et unique raison qu'il y a des enveloppes avec des budgets faramineux au bout, là, qui dépendent de résultats.
Donc, tu comprends, le département de la Défense ne peut pas dire au Congrès, ben, on ne sait pas ce que c'est, puis ça ne nous intéresse pas, ou il n'y a rien là-dedans, ou on ne peut pas dire ça. D'un autre côté, le département de la Défense ne peut pas dire ce qu'il ne sait pas non plus. Si le département de la Défense dit, ben là, on a des cas, mais on n'a pas suffisamment de données télémétriques. Et là, c'est assez amusant, parce qu'en même temps qu'on voit ce bras de fer qui se joue entre le Congrès et le département de la Défense, on voit plein de monsieur en cravate, donc des gens qui ont eu tous des titres ronflants, un ancien sous-secrétaire, un ancien sous-ministre, un ancien sous-quelque chose. Puis là, ils ont tous des histoires fabuleuses à nous raconter, hein. Ils occupent à peu près toutes les tribunes aux États-Unis. Puis oui, nous avons la... Moi, quand j'étais au département de la Défense en 1986, j'ai vu des documents fabuleux qui nous montrent l'existence des ovnis. Mais sacramone, on peut-tu les voir à un moment donné? On voit jamais rien. Depuis 5 ans, la seule chose qu'on a, c'est des messieurs en cravate qui parlent, puis nos 3 films en noir et blanc, en infrarouge, qui montrent des patentes pas trop convaincantes, là, puis des histoires, des gens qui racontent des histoires. Mais sacramoune, elle est où la preuve? Tu sais, me semble, après 5 ans, là, on devrait en avoir une petite preuve à un moment donné, une petite chose télémétrique. Non, on a des messieurs en cravate qui racontent de bien belles histoires, puis des films pas très convaincants. Puis là, à travers ça, ben le Congrès et le département de la Défense se font un bras de fer. T'sais.
On va en savoir plus sur Mars bientôt que sur ces images-là en 5 ans, Christian.
Ouais, mais le sujet, il est fascinant. Il est fascinant parce qu'on se trouve à une croisée des chemins qu'on n'a jamais vu dans l'histoire des ovnis. C'est la première fois que le sujet des ovnis, peu importe leur origine, extraterrestre ou non, c'est la première fois que ce sujet-là est devenu une espèce d'enjeu national.
Oui.
Tu sais, avant, c'était, les ovnis. Mets ta petite tuque en papier d'aluminium puis va-t'en chez vous, là. Mais là, c'est plus ça qui se passe, là.
Les chemises se déchirent.
Et parler des ovnis ou des pannes, pour utiliser le nouveau terme, ça ne fait plus loufoque. Hein, on peut en parler dans les médias, des gens qui sont des spécialistes du militaire ou des spécialistes de l'aviation en parlent ouvertement. Ils n'ont plus peur d'être pointés du doigt en disant « Ah, ça c'est le gars que j'ai vu à la télé qui parlait des ovnis. » Avant, ça faisait loufoque. Aujourd'hui, ça fait tout à fait sérieux. L'enjeu, il est important. Je ne me prononce pas, puis en fait, je ne sais pas, Camille. Les ovnis sont-ils des véhicules extraterrestres? Je ne sais pas. J'en doute. Mais je laisse une petite porte ouverte, je me garde une petite gêne. J'ai plutôt l'impression que les ovnis sont ou des erreurs d'interprétation, des erreurs, comme tu l'as mentionné, dans des bugs de relevés télémétriques, ou bien encore des drones ou des objets utilisés par des nations étrangères, ou simplement des objets qui appartiennent au gouvernement américain, qui font partie de d'autres projets. Je pense que la solution des ovnis est sur Terre. Il faut pas regarder vers les planètes. Je pense que la solution des ovnis est sur Terre. Mais je me garde une petite gêne, mais je comprends. Avec tout ce qui se passe, je comprends les gens qui continuent de défendre l'hypothèse d'une origine exotique de la question des ovnis, parce que, ultimement, la véritable réponse, c'est qu'on le sait pas. Et le département de la Défense nous le martèle, on ne le sait pas.
Non plus.
Et le Congrès américain, eux, veulent savoir.
Ce sera à suivre, ce dossier-là. Christian Page, on a utilisé plus que le temps qu'on avait et on a bien cassé la glace. On se retrouve demain, même heure, même poste, à 19h pour un autre épisode, une autre thématique de Radio X-Files. Le Spacecast s'en vient. Merci, Christian. Bonne fin de soirée.
Ça me fait plaisir. Bonne fin de soirée à toi aussi.
Bye-bye.